Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
Cobb. Son cri d'ivrogne a fait trembler les vitraux. Le silence s'est épaissi, impénétrable, presque suffocant. Cobb, putain! Toute trace de miséricorde avait quitté le visage du prêtre qui attendait, médusé, la fin du témoignage. « T'es mort, a tempêté mon frère. Mais qu'est-ce que t'as foutu, hein? T'as pensé à nous? Merde! Qu'est-ce qu'on va faire ?» Citation en page 15 du roman « On peut le plus ou moins décaler » Patate chaude, Marie Baird, édition Encre fraîche 2023. Donc cet ouvrage inédit, j'ai lu la scène d'ouverture qui lance toute l'intrigue. C'est une scène d'enterrement complètement surréaliste et cocasse. On a là un ami de Cobb qui est décédé, qui face au cercueil, on va dire carrément lâche prise, insulte le mort parce qu'il se retrouve seul. Une scène d'ontologie. Comment Marie Baird vous est venue l'idée d'introduire votre roman par une scène aussi bizarre?
Alors, aussi surréaliste que ça paraisse, c'est une scène qui s'est réellement produite, même si elle a été ici romancée. Un ami qui travaille dans le social et a assisté lors des funérailles d'un résident d'une des structures où il travaillait. Il s'agissait de quelqu'un qui avait perdu contact avec sa famille, qui s'était marginalisé, mais qui était issu d'un milieu assez bourgeois. Et pendant la cérémonie, alors que toute la famille essayait de dignifier son parcours, un des amis du défunt s'est exprimé de cette manière-là devant le cercle. Vraiment sans retenue vis-à-vis de sa colère et avec un vocabulaire extrêmement cru. Il m'avait raconté ça il y a longtemps et puis quand j'ai voulu mettre à écrire Patate chaude, c'était vraiment quelque chose que j'avais depuis longtemps envie de raconter.
Scène théâtrale pour le moins, et ça tombe bien parce que Marie Baird, il faut quand même le signaler, nos auditeurs du Radio Littéractif et à Radio Cité Genève, Marie Baird écrit aussi pour le théâtre. C'est pas pour rien qu'il y a certaines scènes dans vos romans qui sont théâtrales pour le moins. Est-ce que finalement la fiction vous inspire pour le théâtre ou l'inverse, ou c'est deux écritures complètement différentes?
Au départ, j'écrivais du roman. Et puis j'ai eu envie que mon écriture puisse se déployer dans d'autres dimensions. J'ai aussi l'impression que ma plume est nourrie d'extrêmement de beaucoup de choses que j'entends, qu'elle se nourrit beaucoup d'autres voix que la mienne, de discussions que je peux avoir, de gens que je peux observer. Alors c'est vrai que autant dans l'écriture d'un roman, on est seul avec sa plume et les idées qui nous traversent, même quand elles viennent de l'extérieur, autant au théâtre, on est en synergie avec d'autres disciplines, avec d'autres intervenants artistiques. Et donc ce sont des projets qui peuvent parfois se nourrir l'un l'autre. J'ai d'abord écrit des pièces de théâtre qui étaient tirées de romans. J'ai ensuite écrit directement pour le théâtre. Mais quand j'écris du théâtre, on me dit souvent qu'il y a beaucoup de narration. Et quand j'écris de la narration, il y a aussi beaucoup de dialogue. Je pense que c'est deux formes d'expression qui, chez moi, sont interdépendantes et qui toutes les deux me tiennent à cœur.
Alors, le lecteur savoure Patate chaude puisqu'il est, on va dire, immergé dans des moments théâtraux, mais aussi dans un récit. Donc, dans cette fiction, on suit l'histoire, peut-être en creux, de Patate, un chien qui s'appelle Patate, qui n'a rien pour lui, qui est pas très beau, et qui, en fait, le chien, on va dire, orphelin du décès de ce Cobb dans la scène d'ouverture de l'enterrement, et qui cherche un nouveau propriétaire, et par défaut, le narrateur du récit devient le propriétaire de ce chien, enfin, on va dire, par intermittence, parce qu'il a pas très envie de le garder, et à cause de ce chien, va essayer de filer, comme on dit dans l'expression, la patate chaude, en l'occurrence ce chien, Patate, à d'autres humains. Mais ça ne marche pas très bien. Donc il visite ses proches, et puis c'est plutôt, on va dire, pas un prétexte pour renouer des liens ténus, mais c'est plutôt pour se dire en face ce qu'on pense l'un de l'autre.
Oui, c'est vrai qu'il y a d'une part la famille du défunt qui n'a pas du tout envie de recevoir de lui ce qu'il en reste, à savoir cette part très affective incarnée par ce chien. Et il y a d'autre part ce narrateur qui a de la peine à dire non, à se positionner et puis à trouver une identité, à trouver une place professionnelle et qui se cherche un peu. Qui lui est très touché par ce qui arrive aux autres et qui se retrouve un peu par défaut responsable de ce que les autres ne peuvent pas maîtriser. Et donc il va essayer de rechercher du soutien autour de lui. Mais les gens qui sont peut-être moins en marge n'ont pas vraiment la place d'accueillir ce chien.
Alors, il va se retrouver par défaut à côtoyer cet animal et puis à visiter des personnages qui étaient en lien avec Cobb, qui est décédé, ou pas. Et puis, il va, petit chemin faisant, on peut quand même lire en filigrane, basculer dans une forme d'introspection, de remise en cause. Il décide de faire une start-up qui ne starte jamais, on va dire ça comme ça. Et puis, il se rend compte que sa place dans la société, ben, il est en quête, mais que cette quête dure et que peut-être il est grand temps de pouvoir un petit peu rentrer dans le système social.
Oui, c'est vrai. Il est aussi entre... une société un peu plus rangée et une famille un petit peu dérangée à chercher une place peut-être assez différente de ce qu'il a pu observer lui-même dans son entourage. Et il y a notamment cette scène assez centrale où il va se retrouver accompagné de ce chien à un entretien avec sa conseillère du chômage. Et cette scène, pour moi, est importante. Bien sûr, il y a des situations cocasses qui découlent de la présence du chien, mais il y a aussi une vraie question là-dessous que je me pose, à savoir que ce narrateur, il a quand même le cœur sur la main, il se retrouve à s'occuper d'une créature avec laquelle il n'est pas vraiment lié, puisqu'il n'est même pas tellement lié au défunt, qui était un ami de son frère. Et ça, quelque part, c'est tout à son honneur. Pourquoi est-ce que le chômage ne peut pas s'appuyer sur les compétences, les forces des gens qui arrivent en situation de décrochage, plutôt que de leur envoyer l'injonction de rentrer dans le système et puis de répondre à des attentes pour pouvoir réintégrer le monde professionnel où finalement les injonctions du chômage ne sont d'ailleurs pas forcément celles qu'on va ensuite subir dans un milieu professionnel où on se sera réinséré.
C'est la force de votre ouvrage, c'est qu'on parle d'un chien, de quelqu'un de décédé, d'où le titre « Patate chaude ». Mais en fait, la patate chaude, elle est aussi chez les humains, dans la critique sociale. Le système, si on est dedans ou dehors, et qu'est-ce qui fait qu'on est intégré ou pas, à travers le cheminement de ce narrateur. Et comme vous le dites très bien, Marie-Bert, il y a cette scène de chômage, mais tout du long, vous questionnez à travers les rencontres qu'il fait, ce narrateur, ces gens en marge qui peut-être... leur force réside là, questionne réellement les fondements du système. Parce que quand on est en marge, on est justement peut-être un peu sur cette lisière à distance, on a une pensée peut-être plus critique que si on est dedans.
Mais moi je me demande si la société n'a pas finalement besoin de la marge dont elle ne veut pas officiellement s'occuper, puisque c'est finalement souvent des gens en marge du système qui se retrouvent en charge de situations qui ne rentrent pas dans les clous du système. Et c'est vrai aussi que ce narrateur, comme vous le dites, est lui-même une sorte de patate chaude dont le milieu professionnel n'a pas tellement envie et dont la famille même se débarrasse assez volontiers. Donc oui, je pense que de cette marge, il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que c'est une thématique assez forte dans mes ouvrages.
Alors on peut le souligner, c'est une thématique, comme vous le dites, qui traverse peut-être l'ensemble de vos ouvrages, voire même vos pièces de théâtre. Vous avez cette sensibilité pour ces personnalités en marge ou bien qui sont dans des questionnements existentiels fondamentaux. Vous avez quand même revisité la crise adolescentaire dans Sagama notamment, les idées sur la finitude de l'être humain, sur les questions de vie, de mort. Vous aimez être dans des sujets prenants qui vont aussi un peu bouleverser le lecteur, mais la force de Patate Chaude, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Vous ne lâchez pas l'humour et on rit énormément alors qu'on se pose des questions graves quand même.
Je pense que l'humour, c'est une manière d'être à distance de sujets qui nous tiennent à cœur. On reste à la fois très proche de ses affects, mais aussi très proche de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut aussi un peu garder la tête froide. Et c'est vrai que c'est important pour moi, aussi dans mes lectures, de trouver une part de lumière, quelque chose qui me rappelle que tout n'est pas désespérant. Dans Sagama notamment, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement la crise d'une adolescente, mais aussi la réponse d'un système qui se veut neutre et objectif et qui finalement est incarné par des êtres humains avec leurs failles et avec leurs déviances.
Alors ce chien, ce fameux patate dans Patate Chaude, qui est le fil rouge d'une narration in absentia du propriétaire qui est décédé à travers ce narrateur, eh bien pose toute la question du lien de l'homme à l'animal. Et vous avez apparemment une sensibilité particulière pour ce lien spécifique entre les humains et leurs animaux domestiques. Ça vous vient d'où ?
Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que ça a toujours été là. Enfant, j'ai réclamé pendant des années un animal, jusqu'au jour où j'ai enfin pu adopter un lapin quand j'avais 13 ans. Ce petit lapin est mort après quelques jours, d'une manière qui m'a beaucoup marquée, parce qu'il avait été tellement attendu. Et par la suite, j'ai adopté beaucoup d'animaux. C'est vrai que c'est une cause qui me touche. Je sens dans l'altérité de l'animal quelque chose de très proche de nous. Et j'ai beaucoup de peine avec tout ce qui se passe, avec la manière de laquelle on traite nos animaux.
Certains philosophes, d'ailleurs, dans les mouvements antispécistes, disent que selon comment un être humain traite l'animal, ça en dit long sur comment il traiterait son alter ego humain.
Oui, je pense que c'est vrai. Et je suis maman, et c'est vrai que ma première sensibilité maternelle, c'était en lien avec des animaux, et je continue à ressentir cette douceur qui peut sortir de moi pour rassurer un autre être, pour prendre soin de lui. Pour moi, c'est la même.
Alors, Patate Chaude, une lecture complètement décalée, insolite, qui va surprendre les lecteurs, mais avec délice et humour. L'histoire de ce personnage qui se retrouve avec ce chien, Patate, qui est pas très beau et qu'il aimerait refiler plus loin, et ça va pas se passer comme ça. Par contre, ça va lui permettre de cheminer pour lui-même, dans son rapport à la société et aux autres. On va pas tout révéler parce qu'il y a une chute magnifique à la fin de l'ouvrage. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche ou bien l'œil aux aguets pour lire. Je vous recommande vivement Patate Chaude de Marie Baird, édition Encre Fraîche 2023. C'est un ouvrage absolument inédit. Et dernière question avant qu'on se sépare, Marie Baird. Alors maintenant, vous êtes en train d'écrire à nouveau ?
Je suis sur le point de publier un texte qui est en fait une adaptation romanesque d'une pièce de théâtre. C'est un exercice de transformation assez difficile. J'avais souvent procédé de la manière inverse, à savoir appuyer un spectacle sur un roman que j'avais écrit au préalable. Et là, cette démarche de déployer, comment dire, de donner des développements à un spectacle qui s'est déjà joué l'année dernière, pour en faire un roman, c'était une aventure assez passionnante de plonger en fait dans l'intériorité d'un personnage.
On se réjouit alors de vous lire à nouveau, Marie Baird. Bon vent, belle plume.
Merci beaucoup.
Radio Interactif pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.